Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 143, ici Richard Delhomme. Les loulous, la fête est finie, vous avez bien rigolé lors des derniers épisodes, mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à la poilade. Aujourd'hui, je vous parle d'une maladie peu connue, la bigorexie. C'est-à-dire avoir une pratique sportive déraisonnable, toujours plus de séances, plus de kilomètres, au mépris des signes de fatigue de la vie sociale, familiale ou professionnelle. Pour parler de cette addiction au sport, je reçois Servane Audiard, elle-même bigorexique, raisonnable, comme elle le précise. Pour Servane, son addiction l'a conduite à faire jusqu'à 6 heures de sport par jour, tous les jours, quelle que soit la météo, et cela l'a menée à 3 accidents graves à vélo. Bon, j'exagère un peu sur le côté sérieux de l'épisode, car en fait on a bien rigolé, même si l'exercice fut une véritable épreuve pour Servane. Sans plus attendre donc, Servane Audiard. Bon alors Servane, oui. Je dois t'avouer un truc, ouais. C'est que généralement je ne prépare pas les épisodes et je me contente d'improviser si on peut dire, je pars de ma vague connaissance du sujet et de mon invité et généralement je croise les doigts pour que tout se passe bien et a priori ça se passe plutôt pas mal. Parfois je prépare un tout petit peu plus pour avoir une trame et avec toi je dois avouer que j'ai préparé plus qu'avec les autres. Ça m'a pris au moins 20 bonnes minutes.
Cool.
Voilà. Bon, évidemment, t'as écrit un livre que je n'ai pas lu. Ça, c'est une évidence.
Hein, en bon... c'est déjà bien de l'avouer. Hein. Il y en a plein qui m'interviewent, qui ne l'ont pas lu, qui ne le disent pas. Donc,
Ah oui, non, mais c'est beaucoup plus drôle. Tu vois, on en reparlera tout à l'heure, mais nos défauts, il vaut mieux vivre avec nos défauts et avec nos petites lacunes. On vit bien plus heureux de cette manière-là, je pense.
Ouais.
Donc, voilà, au moins 20 minutes de préparation. Tu as écrit un livre que je n'ai pas lu. Et je dois avouer que je ne suis pas plus avancé. Donc, je ne sais toujours pas comment commencer avec toi, mais j'ai juste quand même une petite interrogation. Est-ce que tu t'es réconcilié, est-ce que tu t'es fâché ou réconcilié avec ta sœur ?
Pourquoi ?
Pour son mariage.
Je me suis jamais fâché avec elle, en fait.
Ouais.
Ouais, non. Je pense qu'elle m'en a voulu, j'en sais rien. Effectivement, je ne suis pas allée à son mariage. Enfin, si, j'y suis allée, mais je ne suis pas restée. Elle m'a jamais dit qu'elle m'en voulait. Voilà, ça s'est passé comme ça. On a des rapports assez distants, mais ça a toujours été... on s'aime bien, on ne se voit pas, et puis voilà, quoi. Mais il n'y a pas de... Peut-être une rancœur et qu'elle ne me l'a jamais dite. C'est... Voilà.
Et si c'était à refaire, tu déclares dans les nombreuses interviews que tu as données que si c'était à refaire, tu referais exactement pareil. C'est-à-dire, pour replacer dans le contexte, ta sœur s'est mariée, tu as fait une apparition éclair, mais tu t'es vite éclipsée parce que tu voulais être en forme pour ta séance du lendemain.
C'est surtout qu'il fallait que je rentre à Paris. En fait, ma sœur s'est mariée à Caen, c'est plus simple, en Normandie, disons. Et pour pouvoir ramer le lendemain matin, le dimanche matin à Paris, il fallait que je rentre le samedi soir. Donc effectivement, j'ai assisté à la messe de mariage, à la cérémonie à la mairie. J'ai pris l'apéro et j'ai pris un train de nuit, voilà, de soir. Si c'était à refaire, honnêtement, ouais, je pense que... Bon, disons que j'ai la chance, c'est qu'elle s'entend super bien avec son mari. Elle a des enfants adorables, donc la question ne va pas se reposer, je ne pense pas. Mais sinon, oui, je pense que ce serait pareil. Ou j'irais carrément plus loin, je n'irais pas du tout.
Et pour les 70 ans de ta mère ?
Là, j'ai pas. Très honnêtement, moi, je ne m'en souviens pas. Donc, j'ai zappé le truc tout de suite, en fait. Et C'est pareil, est-ce que je referais peut-être, je sais pas.
Est-ce que, parce qu'on va commencer à en parler tout de suite, est-ce que finalement une des définitions, ou la définition, ou peut-être plusieurs, de définition de la bigorexie est justement cette incapacité à discerner le bon du néfaste et de faire passer sa pratique sportive absolument avant toute relation sociale et familiale.
Je ne sais pas s'il y a une analyse bon-néfaste, c'est une addiction tellement forte que on se dit que si c'est il faut d'abord faire le sport pour être bien. Bon, moi j'ai un autre problème, c'est que de toute façon je me dis qu'en société j'apporte rien à personne, que je sois là ou que je sois pas là, ça change rien. Donc en gros, plutôt, je vais caricaturer et mettre plein de guillemets, mais en gros, plutôt que d'être là-bas, de servir à rien et de m'embêter en plus, bah, autant que je fasse du sport, je vais me faire plaisir, et puis personne verra que j'étais pas là. Enfin voilà quoi. Donc il y a. Pour moi, il y a les double truc qui joue, quoi.
T'es vraiment sûr de n'avoir rien apporté en société? Parce que, bon, les gens ont toujours un problème d'ordinateur. Tu vois, un virus qui traîne ou un truc comme ça où j'arrive pas à faire ci. Et toi, tu es auteur de livres informatiques sur l'utilisation justement des livres. T'as écrit plein de livres sur l'utilisation de Windows 10. Bonne chance.
Mais on est à bon ça maintenant.
Ah oui, non mais moi je suis sur Mac depuis 20 ans, alors tu sais, je peux pas te dire, je sais. Et je donne des formations en école de journalisme et des fois j'ai en entreprise, et des fois j'ai des étudiants ou des apprenants qui sont sur Windows, et là je me sens vraiment comme un gros nul parce que je sais pas m'en servir. Ils me parlent de trucs, ils me disent « Mais tu vois, c'est peut-être dans l'explorateur, c'est dans machin, attends, on va essayer. » Oh, non, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends rien à ce système. Donc, est-ce que tu es vraiment sûr de ne rien apporter ou est-ce que c'est juste l'impression que tu as? Parce que, objectivement, de ce que tu me racontes, de la quantité de livres que tu as écrits, tu as plein de trucs à raconter, hyper intéressant.
Ouais, mais moi, au fond de moi, je pense que j'apporte rien à personne. Je vaux rien et... oui, je peux rendre service, ça c'est vrai, je le fais super souvent, je rends service, je fais énormément de bénévolat d'ailleurs, c'est pour ça aussi. Mais quand il s'agit de converser, raconter des trucs et des machins, d'abord j'ai une vie tellement marginale, je veux dire, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Moi ce qui me branche c'est le sport, je suis une fille mais j'ai aucun attrait pour tout ce qui est cuisine, les enfants, tout ça m'intéresse pas. Donc de quoi je vais causer? Je suis pas forcément drôle. Ouais, mais le sport, bon, les gens, moi, si on me branche sur l'aviron, je vais en parler pendant des heures. Les gens, c'est pas ce qu'ils attendent. C'est bon, quoi. 10 minutes, ça suffit, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que ma vie sociale se résume autour des gens qui font du sport. Enfin, les copains, copines d'aviron et de vélo, c'est pratiquement que ça, ma vie sociale.
Et ils sont pareils que toi, tes copains, copines de l'aviron et du vélo?
Alors, en aviron, je connais peu de bigorexiques, un on va dire, j'en suis sûre, enfin il me l'a dit aussi, donc voilà. C'est un trailer aussi, donc le trail est aussi une activité qui quand même force bien la bigorexie. Sinon dans le vélo, oui, il y en a plein. C'est ça aussi c'est un cercle vicieux, hein, parce que rouler avec des bigorexiques, on s'entraîne mutuellement.
Bah, de toute façon, tu l'as dit à travers tes nombreuses interviews, parce que ton livre est sorti en mars, 2021, le 25 mars 2021, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et tu expliques que c'est le sport est bon pour la santé jusqu'à une certaine dose, on retrouve exactement les mêmes mécanismes d'addiction que pour la cocaïne, par exemple.
Ah oui, oui. Sauf que j'ai jamais touché à la cocaïne. Hein, donc c'est...
Bah, tu sais pas ce que tu loupes. Hein.
Je sais pas, ouais. Disons que je compare, j'extrapole par rapport à ce que j'ai pu lire ou entendre. Enfin, on en a beaucoup parlé d'alcoolisme et tout ça, donc a priori, ces chemins-là, je les connais. Mais oui, je compare beaucoup à l'alcoolisme parce que l'alcoolisme, il y a une progression dans la consommation. Et avec la bigorexie, c'est exactement pareil. C'est qu'au début, vous faites une heure de sport, ça suffit. Après, il en faut deux. Après, il en faut trois. Et c'est pour ça aussi quand on me demande mais à quel moment t'es devenu bigorexique, Je peux pas dire qu'un tel jour machin, je suis devenue bigorexique parce que c'est comme l'alcool ou la cigarette ou j'en sais rien ou oui la cocaïne peut-être, mais c'est tellement progressif que oui c'est une addiction. À l'inverse, quand on n'a pas sa dose de sport, parce que nous on parle vraiment de dose, c'est ça, on a le même état de fébrilité que j'entends dire quand quelqu'un se sèvre de l'alcool ou de la cigarette, quoi.
Tu te sens quand tu as été victime de trois accidents de la route, dus essentiellement à la fatigue et au manque d'attention.
De la route, mais en vélo, hein.
Oui, de la route,
Ouais,
oui. Donc
parce que.
avec diverses fractures, bassin, fémur, c'est bien
Ouais,
ça? Ouais. Tu notes,
écoute.
hein, je me suis préparé quand même, hein. Non,
Ouais,
non, mais attends.
ouais.
C'est du sérieux ici.
Ouais,
C'est pas parce que j'ai une pièce avec un toucan sur le mur que c'est la
ouais.
rigolade tous les jours. Attends, mais je te fais rire en plus, c'est dingue.
C'est fou, hein?
Attends, et tu l'avais parce que pour replacer aussi, ça fait 2 semaines qu'on discute et tu m'avais dit d'abord non, surtout pas de visio parce que je suis pas marrante, je rigole pas.
Eh ouais.
Et là, ça fait 10 minutes, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis 20 ans, qu'on est copains comme cochons. Et qu'on se rappelle nos histoires au collège et tout, quand on faisait chier les profs.
Ouais, ben même pas, hein. Hein, je fais des efforts, hein.
Non, mais ça ne se voit pas, ça semble très très naturel.
C'est
Bravo.
fou. Et à chaque fois, c'est ce qu'on me dit, alors que si tu mettais comment un cardio, là, tu verrais qu'il ça va, ça fonce, hein.
Mais c'est ce que je me suis dit ce matin au réveil, parce que j'ai vu ton message OK à toutes à 2h51 du mat.
Ouais.
Et je me suis dit, oh la pauvre, elle doit être tendue, elle dort pas de la nuit, ça y est.
Ouais, exact. Et c'est pour ça
Donc.
que, ouais, c'est. Enfin, je te l'ai dit très tard hier en disant, je vais pas citer pour qui j'ai fait une interview hier, mais c'est grâce à eux parce qu'ils ont exigé que ce soit en visio. Et quand j'ai fait avec eux, je me suis dit, bon, allez, je fais un effort avec Richard, je lui dis aussi, ok pour la visio. Comme il y avait que 24 heures, j'ai moins stressé, quoi. Sinon, j'aurais stressé une semaine avant. Et ouais. Quand je te dis, tu vois, ça, on revient au truc d'aller en société et de pas y aller, j'ai aucune confiance en moi. Donc là, tu me dis, c'est bien, tu souris, mais en même temps, au fond, je me dis, non, mais c'est bon, ça le fait pas, quoi.
Bah, tu m'aurais dit non, pas de visio. De toute façon, je te l'avais dit, pas de visio, bah pas de visio. Hein,
Ouais.
c'est comme ça. Je vais pas te forcer, je vais pas exiger quoi que ce soit quand même. Bon, n'empêche que je t'avais posé une question. À
Oui.
laquelle tu n'as pas répondu
Ah
et
bon?
que j'ai oublié. Donc, nous voilà bien embarrassés. Et du coup, là, tu vois, tu me fais perdre, tu me déstabilises, Servane, c'est terrible. Hein,
C'est
c'est.
fou.
Ah là là, mais ah là 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 là
Là,
là,
tu vois, on
t'es
va
vraiment.
couper la vidéo, comme ça tu m'entends, si tu seras plus déstabilisé par moi si je souris.
Non, mais là,
Mais
ça y est,
sinon,
je
je peux
commence
faire
à.
la gueule, hein, si tu veux.
Bon, il y en a d'autres, hein, tu sais, il y en a d'autres qui font la gueule, j'ai l'habitude. Hein. Bon, écoute, on va essayer de se remobiliser un tout petit peu.
Ouais. Non, tu étais parti sur quand enfin, il me semble qu'on était resté là ou quand je suis
Oui,
privée de sport.
exactement. Donc tu as été immobilisé 3 fois, même 3 fois sur blessure grave et 4 fois, si on peut dire, sur le premier confinement, à
Ouais,
cause
ouais.
du premier confinement. Dans quel état tu es, en fait, dans ces moments-là?
Alors, il y a un état de fébrilité terrible. Un état de manque. Moi, j'ai besoin de me dépenser énormément. Donc, quand je peux pas courir, enfin, quand je peux pas aller faire de sport, oui. C'est pour ça que le premier confinement, j'ai fait énormément de home trainer pour défouler cet aspect physique. L'autre point qui me handicape beaucoup par rapport à d'autres qui font du sport en salle, c'est que moi, le sport, c'est forcément du sport extérieur. Donc, quand je fais du home trainer, ça me défoule. Ok, physiquement, c'est bien, ça me crève, mais psychologiquement, ça me défoule pas du tout. Oui, donc il y a l'irritabilité, il y a aussi que sur mon boulot, j'arrive moins à me concentrer parce que le sport me permet de me vider la tête. C'est déjà pas mal.
Alors c'est intéressant ce que tu viens de dire sur le côté vider la tête, extérieur, etc. Parce que la semaine dernière, j'ai fait un épisode avec Sylvain Grenier, qui est un organisateur d'épreuves ultra au Québec, et il a un trouble de l'attention. Et il m'expliquait qu'il a renoncé à la médication et qu'à la place, il fait du sport, mais à dose finalement extrêmement raisonnable, une heure et demie par jour. Dans la neige en ce moment, etc. Et au contraire, justement, le sport lui l'aide à se focaliser, à retrouver un petit peu cet équilibre que devraient donner les médicaments, mais qui ne fonctionne peut-être pas très très bien sur lui. Est-ce que c'est un petit peu la même chose pour toi?
Ah oui, moi ça, en fait ça fait les deux, c'est-à-dire que moi je suis capable d'aller faire 2 heures de vélo et pendant 2 heures je réfléchis à la table des matières que j'ai toujours pas trouvée pour mon prochain bouquin. En même temps, il y a un moment où si je fais 3 heures par exemple, il y a un moment où je fais un break dans ma tête parce que je suis au milieu des bois, parce que voilà. Donc ça apporte les deux, ça me permet de réfléchir. Ça fait un peu présomptueux quand je dis ça, mais les formules, je fais aussi de la traduction. Je veux dire, les formules de traduction, il y a des fois faut trouver vraiment l'équivalent et tout ça. Et ben, c'est vrai que quand je suis sur le vélo, quand je suis sur le bateau. Là, ça m'aide à réfléchir. Et après, bon, l'aviron est particulièrement favorable à se vider la tête parce qu'on est obligé d'être concentré. Déjà, on est dans un environnement totalement différent. On est sur l'eau, il n'y a pas de bruit, on glisse, on est tout seul avec son bateau. Donc là, on fait le vide et on est obligé de se concentrer sur le mouvement parce que si on pense à autre chose, c'est une catastrophe. Donc là, c'est presque quand on monte en bateau, tous les problèmes, on les laisse sur le ponton. Hein. On les récupère à l'arrivée, c'est ça qui est dommage, mais sinon, c'est pour ça que le sport apporte les deux pour moi.
Le vélo et l'aviron ont ceci de commun que ce sont des sports répétitifs. Est-ce que ça favorise justement ce côté un petit peu méditatif, introspectif, et propice à la réflexion? Si tu faisais de la Zumba, est-ce que
Ouais.
tu pourrais réfléchir pareil si tu faisais de la Zumba?
Je sais pas, j'ai jamais essayé. Moi, je dirais plutôt ce qui me fait réfléchir, c'est que ce sont des sports d'endurance. C'est pas de la répétition. Alors oui, c'est de la répétition aussi. T'as raison, mais moi, c'est l'endurance qui. Parce que j'ai des copains du Gorexic, le vélo, ils le font à fond. Et après, ils vont sur Strava en disant, ouais, j'ai fait ça, machin. Moi, c'est pas me défoncer. Si je me défonce, mais c'est pas rouler à 35 à l'heure, c'est rouler longtemps. L'aviron, c'est pareil, je ne suis pas dans aller faire des compétitions et tout ça. Si je peux ramer 2 heures, ben je rame 2 heures. Alors je vais ramer moins vite que quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais je suis 2 heures sur l'eau, je suis dans mon bateau, je suis bien. Et je pense que c'est. Enfin, pour. Non, c'est pas je pense, c'est pour moi, c'est plutôt ça qui est propice à me vider la tête et réfléchir et. Ouais.
Pendant le premier confinement, tu as abusé du home trainer. Tu as également bien déconné sur ton alimentation, ce qui t'a fait énormément maigrir. Tu sais que tu n'es pas la seule dans ce cas-là quand même, que le confinement a fait énormément de dégâts avec le home trainer. On ne compte pas le nombre de gars et de filles qui se sont cramés la tronche avec ça.
Oui, et aussi ceux qui sont allés courir, qui avaient jamais couru et qui sont aussi bien flingués, mais bon, ça, ouais. Mais je pense que quand même les bigorexiques, ils ont plus souffert du confinement que les autres. Hein. Enfin, je parle pas de ceux qui étaient en télétravail avec des enfants à s'occuper et tout ça, parce que là, ça devait être une horreur. Moi, j'avais que moi à gérer, déjà, c'était suffisant.
C'était déjà beaucoup.
Oui.
Moi, je me souviens pas avoir souffert pendant le premier confinement.
C'est vrai?
Non. Alors, moi, je suis pas bigorexique, hein, donc tu sais, voilà.
Après, ça dépend aussi où on habite. Hein. Moi, je suis en appartement.
Alors ça, par contre, oui.
Bon, ça veut dire que moi, l'heure de sortie, c'était vraiment 60 minutes. Hein. C'était pas. Alors, j'étais en plus hyper raisonnable. J'ai pas triché comme il y en avait plein qui faisaient. Donc, ça, c'était une horreur. Hein.
Mon seul souvenir très drôle, c'est qu'au bout d'un moment, ben justement, on était. Alors, moi, je suis en maison et tout, j'ai de la place, énormément de place. Mais quand même, au bout d'un moment, sortir dehors, prendre la voiture, c'était bien. Et je me souviens pas qu'on se disputait, mais que c'était quasiment la petite compétition pour savoir qui allait chercher les courses à Leclerc
Oui,
Drive.
oui, Oui, ça c'est comme quand on faisait la queue au magasin, on se disait c'est bien la seule fois où on est content de faire la queue parce que comme ça on passe du temps dehors en fait. C'est
Exactement,
ça.
exactement. Tu l'as un petit peu dit à l'instant, tu n'as pas du tout une volonté de compétition, mais malgré tout, vu ta pratique, notamment à vélo, est-ce que ça t'a jamais tenté? Je suis quand même obligé de poser la question, vu qu'on est sur un podcast essentiellement longue distance, de t'aligner sur un truc longue distance, justement, où tu pourrais mettre tes qualités à profit et mettre finalement tout ce que tu es à profit, au profit de quelque chose.
Non, la seule fois où je l'ai fait, c'est en aviron. Quand on a passé les brevets d'endurance, là, j'ai été la première à à m'inscrire pour passer le brevet d'endurance en skiff. Donc, c'est 25 km. Donc, c'est 2 heures. J'ai mis 2h40, je crois, de rame non-stop. Et on a fait une compétition aussi, 25 km. Et 25 km, là, en rythme soutenu en aviron, c'est. Je pense, et ça c'est pareil, hein, c'est parce que les copains m'ont dit si tu le fais avec nous et tout, mais sinon j'y serais jamais allée en fait. Donc les brevets, le brevet, enfin il y en a deux en fait, il y en avait un de 17 km et un de 25, j'ai fait les deux. Le brevet d'endurance, il n'engageait que moi, donc je me suis inscrite tout de suite parce que je me suis dit si j'y arrive pas, j'y arrive pas, c'est pas grave. Par contre, faire ce que tu dis ou aller sur une compétition où ça va engager d'autres gens, non, non. Là, je l'ai faite, la compétition, je l'ai faite parce qu'on m'a traînée.
On t'a traîné par la
Non, on
peau du
n'a pas
cul, ça
traîné,
on
en
peut
fait.
dire.
Là, en fait, ça fait un peu comme ton interview en visio. C'est-à-dire que normalement, je ne devais pas y aller. Donc, normalement, il faut être 5 sur ce bateau-là. La veille, il y en a un des 5 qui était malade et qui ne pouvait pas participer. Et je me suis dit, si j'y vais pas, ils ont personne. Et comme voilà. Donc je me suis dévouée, mais après ça m'a fait super plaisir, c'était une super course, c'était en plein hiver. Ça c'est pas pour rien, ça s'appelle les cugelés, c'est que quand on prépare les bateaux, il fait moins 3, tout est gelé, enfin c'est une ambiance tout à fait particulière.
Il n'y a pas eu de déclic où tu t'es dit, tiens, je m'en sors bien, je peux apporter quelque chose à l'équipe, j'aime bien, ou ça a vraiment généré qu'une source de tension, de stress pour toi?
Non, ça m'a fait super plaisir, mais je me suis dit j'ai eu un coup de bol, c'était bien, on s'est bien démerdé. Et puis, non, non, je vais pas. De toute façon, toutes les compétitions que j'ai faites, ça a été comme ça. Ça a été parce qu'il manquait quelqu'un. Alors voilà, vas-y quoi. Ok, mais.
Il manque quelqu'un et tu y vas pas en désespoir de cause parce que finalement, si tu affichais ta volonté d'y aller, tu serais certainement choisi aussi.
Mais je le ferai jamais.
Pourquoi?
Parce que
Parce que tu crois
si
pas?
non, j'y crois pas. Puis si j'y vais en équipe et que l'équipe fait un mauvais score, ce sera ma faute. Donc voilà.
Ça doit pas être facile tous les jours, la vie dans la tête de Servan, non?
Ah non, puis on est comme dirait quelqu'un, on est beaucoup dans ma tête, alors c'est compliqué.
Bon, il t'a fallu combien de temps pour mettre un nom ou au moins un état de conscience sur ta bigorexie? Parce que si j'ai bien compris, tu as fait ça pendant 30 ans et pendant 30 ans, tu t'es tapé jusqu'à 6 heures de sport par jour, qui étaient réparties 3 heures de vélo ou 3 heures de rame et ou 4 heures de rame et 2 heures de vélo, ou inversement. Tu as fait ça pendant 30 ans. Combien de temps il t'a fallu pour te dire là, il y a quand même un truc qui va pas?
Je sais pas, enfin j'ai pas été à 6 heures pendant 30 ans, hein. J'ai été à 6 heures pendant je sais pas, peut-être 4-5 ans, parce que déjà
Ce qui est déjà très honnête,
oui, c'est déjà dément,
c'est bien.
je dirais que j'ai bien été 2 ans dans le vrai déni ou à faire des sorties, enfin à prendre des gros risques en le sachant. Là, ouais, je suis restée, je pense bien 2 ans là-dedans. Enfin, là, c'est vraiment le pire de la bigorexie, quoi. Savoir qu'on fait beaucoup de sport, qu'on en fait trop, bon point, c'est un truc, ok, on est addict au sport. Après, quand on commence à avoir les comportements vraiment dangereux et qu'on continue quand même, c'est là où je dirais, ouais, les 2 dernières années. Enfin, ouais, on va dire 2016 à 2018, quoi, jusqu'à. Disons que mon dernier accident, ça a été vraiment. Là, j'ai dit, ouais, stop, quoi, on arrête les conneries.
C'est quoi un comportement dangereux?
Comportement dangereux, c'est je fais beaucoup de vélo, je prends. Alors, en aviron, il y a moins de comportements dangereux parce qu'on est en club, donc on est encadré. Donc, voilà. En vélo, on est tout seul, on fait ce qu'on veut. Donc, aller rouler quand il y a du verglas, aller rouler quand on est crevé, quand ça m'est arrivé. Je prends souvent cet exemple-là parce que je me dis, mais il faut vraiment être con. Je partais, j'étais devant l'ascenseur et devant l'ascenseur, j'avais les yeux qui se fermaient tellement j'étais crevée. Je partais quand même et de nuit. Donc là, c'est dément, quoi. Rouler à la frontale quand on est crevé, même s'il y avait du brouillard, je le faisais, même s'il pleuvait. Donc déjà en temps normal, quand on est bien réveillé, rouler de nuit sous la pluie ou dans le brouillard, c'est hyper dangereux. Et là, j'avais des comportements comme ça, et c'est là où on a une petite voix qui me dit « Non, mais là, t'es vraiment con, mais tant pis, on y va quand même. » Et le pire, avec vu le caractère que j'ai, que t'as compris, c'est que je me disais « Ouais, mais moi, j'y vais pas, si les autres, eux, ils vont y aller forcément. » Et ben, quand je vais revenir demain, ils vont me dire « Ouais, t'étais même pas là. » Donc, il y a aussi une dévalorisation que je voulais pas avoir.
Et aujourd'hui, tu leur réponds quoi ?
Aujourd'hui, je leur dis « Je suis restée chez moi, j'étais bien tranquille, j'étais bien contente. » Aujourd'hui, je suis fière et vraiment fière. C'est peut-être le seul moment où je suis fière de moi. Mais quand je suis vraiment crevée, même ça m'arrive rarement, c'est vrai, mais le verglas ou le... Enfin, les risques de glisser, là, cette année, c'est particulièrement fréquent. Le nombre de matins où je ne suis pas allée en vélo parce que j'avais peur que la route soit glissante, ça m'est arrivé un paquet de fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me fais chambrer le lendemain. Ah, bah, t'es pas venue. Bah non, parce que j'avais la trouille. Ouais, mais non, mais ça glissait qu'un peu. Ben oui, mais non, bah tant pis. Hein. Voilà, quoi. Ça me fait toujours un peu quelque chose, mais bon... Je privilégie quand même ma vie et ma santé maintenant.
Est-ce que tes amis ont eux aussi une petite liste d'accidents à leur actif ou de blessures ou de... Parce que tout à l'heure, tu me parlais d'un de tes amis bigorexique qui fait du trail, le vélo évidemment. On peut penser aussi au triathlon. Mais la différence entre le vélo et le trail et le triathlon, c'est que le trail et le triathlon sont des activités par essence de compétition. Alors évidemment, on peut toujours aller se promener en montagne,
ouais. Mais
spécialement le triathlon, c'est une activité par essence de compétition et on retrouve beaucoup ces comportements-là. Et est-ce qu'ils se rendent compte parmi tes amis qu'ils passent à côté de quelque chose sur les événements auxquels ils participent, qu'ils ne mettent pas toutes les chances de leur côté avec ce comportement bigorexique?
Celui qui fait du trail, je sais pas, parce qu'il est vraiment... en plus, oui, il est très bon. Enfin, il est capable d'enchaîner un trail le samedi, de faire un marathon le dimanche. Je peux pas répondre là-dessus, à ta question là-dessus. En vélo, tous les bigorexiques que je côtoie, ils font pas de compétition. Donc, ils ont eu des accidents, des accidents cons comme moi, parce qu'à force d'être fatigué, on n'est plus lucide. Donc, on grille un feu rouge et puis voilà. Mais
récemment, je parlais avec un chercheur en STAPS de l'université de Caen et il m'expliquait que chez...
Quand
on y revient, non mais attends,
oui.
sur le côté régional, j'ai une petite blague pour tout à l'heure, parce que je sais d'où tu viens, t'inquiète pas que sur celle-là, je vais pas te louper. donc, non, tu me déstabilises, tu vas arrêter de suite, Servane, hein. ça ne va plus, ça n'arrive jamais. Et voilà, là, les gens vont se dire non mais Richard là, ça y est, il a complètement craqué, il devient timide, mais tu vois, ils vont se moquer de moi et tout. À la différence de toi, c'est qu'ils peuvent bien se moquer de moi, j'en ai absolument rien à foutre.
Oui, mais tu diras que c'est de ma faute, c'est pas grave, tu sais.
Oh, non mais ça par contre c'était prévu, t'imagine pas que j'allais endosser la responsabilité.
Bon, tout va bien.
Non, ça c'est pas mon genre, ça. Mais je sais plus ce que je voulais dire.
C'est génial ça. T'étais parti à Caen. Tu vois, t'étais parti à Caen avec les pommes et tout, et puis voilà.
Ouais. Non, mais la Normandie, de toute façon, pareil, la Normandie. Donc, il me disait que ce qui manque parfois dans le trail, c'est parce qu'il y a beaucoup d'études sur le sommeil, sur l'alimentation, sur l'endurance, sur la différence homme-femme, plein de trucs comme ça. Mais ce qui manque, c'est aussi les comportements un petit peu déviants chez les trailers qui sont observés parfois, où les mecs vont, ou les nanas vont privilégier par exemple l'achat d'une nouvelle paire de pompes et qui va gréver un petit peu le budget de la famille, où les gars en sont à se dire...
Ah oui.
Non, j'achète ces pompes-là et tant pis si on doit moins partir en vacances ou aller moins loin ou n'importe quoi. Ils en sont à un état de déséquilibre dans la gestion du budget de la famille.
Ah oui, non. Ah moi je connais. Alors pour moi non. Enfin de toute façon, vu que j'ai pas de dépenses, je pars pas en vacances et tout ça. Donc mes seules dépenses c'est les bouquins et le sport. Et je me nourris quand même, mais bon. Et chez les autres, non, j'ai pas. Enfin, ceux que je connais,
pas vu ça. Ouais.
Non, j'ai pas vu ça. S'ils ont envie d'un beau vélo, qu'ils ont pas le budget, ils attendent. Mais non, que ça, non.
Tu es vosgienne ?
Non, je suis normande. J'ai vécu dans les Vosges, mais je suis née à Caen, justement.
Bon, alors tant pis, je vais adapter ma blague. Est-ce que tu penses que si tu avais grandi ailleurs que dans les Vosges, tu serais différente ? Est-ce que tu penses que finalement, la plupart de tes problèmes ne viennent pas de ton adolescence dans les Vosges ?
Ah si, enfin... c'est pas... C'est-à-dire que...
Ah, les Vosges !
C'est pas parce que c'était les Vosges, c'est parce qu'on était loin de notre famille et que j'étais la fille des enseignants. Et si j'avais grandi... même dans les Vosges, mais avec tout le reste de notre famille, ça aurait pas été. D'abord, ça aurait pu être n'importe où ailleurs que dans les Vosges. Du moment que ce qu'a fait, voilà, tu me fais bafouiller maintenant. ce qui m'a façonné de cette façon-là, c'est que on s'est retrouvé isolé par rapport au reste de la famille. Ça s'est trouvé dans les Vosges parce que mon père était prof d'allemand, mais ça aurait pu très bien se passer dans le Pays Basque ou dans le Grand Nord, vers Lille et tout ça, ça aurait été pareil.
Pire en Bretagne.
Pardon ?
Ça aurait pu être pire, t'aurais pu être en Bretagne.
Alors, on critique pas la Bretagne.
Et pas qu'un peu ici, bien sûr. Mais c'est vrai que comparé aux Vosgiens, j'ai moins... Je me détends avec la Bretagne.
Aujourd'hui, mais les Vosges, c'est magnifique en plus. Alors pour le coup, pour favoriser le sport, c'est vrai que bon, c'était bien parce qu'on était à la campagne. Les Vosges, il y a le ski, enfin il y avait parce que maintenant il y a moins de neige, mais à cette époque-là il y avait encore plein de neige tout le temps. Je me rappelle que quand j'étais petite, il y avait encore suffisamment de neige pour qu'on puisse chausser les skis juste devant chez nous, quoi. Donc c'était et je faisais de la luge sur la terrasse, enfin c'était donc pour ça ça a favorisé le sport, mais comme dit, on aurait été en Bretagne au bord de la mer, j'aurais fait autre chose, que je serais peut-être devenue surfeuse, je sais pas. Mais c'est le fait d'avoir été isolée du reste de la famille et surtout d'avoir été la fille des profs qui m'a aussi poussée vers le sport.
Pourquoi vers le sport spécifiquement ? Parce que tu aurais pu te plonger dans autre chose, dans la musique ou dans toute autre chose ?
Je pense parce que j'avais besoin de me dépenser beaucoup physiquement. Et puis, on était quand même dans un petit village. C'est pas comme à Paris, où à Paris, vous avez un prof de musique, un prof de Zumba, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Là, il s'est trouvé qu'il y avait un centre équestre pas loin de chez nous. C'était déjà extraordinaire. Donc, voilà, j'ai pris ça. C'est vrai que si j'avais voulu prendre, par exemple, tu prends les cours de musique, c'était genre, il fallait que mes parents m'emmènent en voiture à chaque fois, quoi. Là, c'était tout près de chez nous. Le vélo, j'avais qu'à monter dessus, aller marcher, aller courir, il n'y avait rien à faire, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai fait du sport.
Oui. Il y avait aussi un petit terrain favorable quand même, parce que tu avais énormément besoin de te dépenser quand même.
Ah oui, oui, oui.
C'était pas juste l'arrachement familial.
Non, non, et puis mes parents étaient très sportifs et moi j'ai été fille unique pendant 9 ans puisque ma sœur est née, j'avais 9 ans. Donc mes parents, ils allaient skier, faire du vélo, marcher, tout ça, j'étais toujours avec. Donc dès le départ aussi, il y a eu peut-être que si mes parents avaient fait du dessin ou avaient fait autre chose, j'aurais fait autre chose aussi. Hein. Mais oui, de toute façon, petite, j'étais une vraie pile électrique. Donc oui, le sport, c'était impeccable.
Et aujourd'hui, à 48 ans, comment tu gères ton... tu es toujours addict ou est-ce qu'au contraire, tu apprends à vivre avec?
Non, je suis toujours addict. J'ai arrêté tout ce qui est comportement déviant, c'est-à-dire que j'en reste à... Actuellement, c'est 5 heures de sport par jour. Ça reste énorme, ça reste trop, on est d'accord. Si la situation sanitaire finit par s'améliorer, je pense que je vais réussir à diminuer. Enfin, c'est mon objectif de diminuer le nombre d'heures. Parce que j'ai toujours, on parlait du confinement tout à l'heure, pour moi c'est une vraie angoisse hein, d'être confinée. Donc c'est vrai que le nombre de fois où je suis dans mon bateau en me disant oui, je vais faire encore une demi-heure parce que si jamais après on est confiné, j'aurais toujours ça, j'aurais toujours pris ça. Et le fait d'avoir arrêté tous les comportements déviants, comme je parlais tout à l'heure, rouler sur le verglas et tout ça, j'ai fait pour moi, j'ai fait déjà une grosse première étape. J'arrête de me voiler la face quand je me dis ce que tu fais là, c'est pas bien. Si je considère que ce que je fais, c'est pas bien, je le fais pas. Bon, à part, oui, à part les quand 5 heures, c'est beaucoup, mais si vraiment je suis complètement crevée, je vais pas faire 5 heures. Si vraiment j'ai prévu de faire 3 heures et qu'au bout de 2 heures et demie, j'en peux plus, je dis bon, c'est bon, je rentre, ça va pas changer la face du monde, quoi.
Tu me dis que tu as arrêté les comportements déviants, pourtant tu as une peur presque irrationnelle d'un nouveau confinement et tu penses que faire une demi-heure d'aviron en plus va te permettre de stocker ce temps, comme si tu allais pouvoir le réutiliser comme des crédits sur une petite carte quand on sera confiné. Est-ce que ça, c'est pas un début ou une trace restante de comportements déviants?
Non, pour moi, c'est pas déviant, c'est de la connerie, mais
Est-ce que c'est pas un synonyme sympa pour dire que c'est déviant?
non, parce que déviant, pour moi, ça veut dire qu'il y a danger. Et alors peut-être que l'adjectif déviant est pas celui qui convient, mais c'est je sais pas, on dit à un gamin mange parce que tu sais pas ce que tu mangeras demain, enfin si tu pourras manger demain, c'est un peu ça quoi. C'est je sais bien que les heures de sport je vais pas les stocker, mais au moins je les aurai faites. Il y a aussi cette histoire des 3 accidents que j'ai eus. Où je me suis dit, bah, mince, la séance-là, j'y étais pas allée, ben voilà, quoi. Et puis celle-là, ben maintenant, tu vas attendre 3 mois avant d'en refaire une.
À quoi
Donc,
ressemblent tes séances à vélo? Tu pars avec un objectif précis ou
je
tu
pars
sais où
avec un
tu vas?
objectif, horaire, en fait.
Toi, tu te dis, il faut que je fasse 3 heures.
Ouais, je pars. Ouais.
Et ça
Mais
tous les jours.
oui.
Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il
Ouais.
gèle un peu.
Non, bah, enfin, ça dépend. Si le sol est sec et qu'il gèle, ouais. Lundi matin, là, il faisait moins 3. Je me suis bien pelée, mais c'était super beau. Donc, ça, oui, j'adore. Enfin, franchement, rouler au milieu de tout ce qui est givré et tout ça, c'est magnifique. À partir du moment où il n'y a pas de risque, et là, il n'y en avait pas du tout, puisque la route était sèche. Par contre, mardi, où on avait un gros, gros brouillard, bon, déjà, le brouillard, c'était pas possible de rouler, mais il y avait aussi un risque de brouillard givrant, donc là, j'y suis pas allée. Après, oui, je pars pour un objectif horaire, je sais pas forcément quel parcours, enfin, déjà, si je fais du VTT, j'ai aucun parcours en tête. Donc je sais même pas si je vais, souvent je sais même pas si je vais faire de la route, si je vais faire du VTT, si je vais. C'est vraiment mon moment de liberté, quoi.
De liberté par rapport à quoi? Tes moments d'emprisonnement ressemblent à quoi?
C'est pas des
C'est
moments
quoi ton...
d'emprisonnement, c'est que je suis hyper. Enfin, j'ai une conscience professionnelle assez exacerbée. Donc mon boulot, c'est vraiment. Faut vraiment que je sois hyper. Hyper bien dans mon boulot et tout ça, donc c'est pas de l'emprisonnement, mais ça, je m'octroie aucune liberté dans le boulot, j'ai un planning à respecter, j'ai des délais, donc voilà. Et après, le sport, je considère ça comme ma liberté parce que j'en fais ce que j'en veux de ces heures-là. Je roule à la vitesse que je veux, je roule avec qui je veux. Si les copains sont pas là, je vais rouler toute seule. Si j'ai pas envie de rouler avec eux, je roule. Enfin, ça dépend, quoi.
Comment tes copains ont accueilli entre guillemets, la nouvelle de ta bigorexie, s'ils ne s'en étaient pas rendus compte avant, et comment ils ont accueilli le fait que tu sortes un livre là-dessus?
Y a pas eu, enfin, j'ai eu que des retours positifs. On va dire qu'à l'aviron, forcément, pour caricaturer, il n'y a personne qui savait que j'étais bigorexique, c'est-à-dire tout le monde savait que j'étais très sportive, mais à ce point-là, non. Dans le vélo, pratiquement, enfin, c'est pas pratiquement, dans le vélo, tous étaient au courant, puisqu'ils sont pareils, pour la plupart. Et après, le livre, personne n'a rien reproché. Il y a eu quelques jalousies qui demeurent parce que voilà. Bon, c'est la nature humaine est ainsi faite, on va dire.
C'est exactement ce que j'allais dire.
C'est, enfin, ce qui est le plus rigolo, c'est j'ai fait deux télés. Moi, pour moi, c'était une horreur parce que bon, t'as compris que j'ai horreur de me montrer, donc la télé, ça a été vraiment infernal. Et en fait, c'est ce qui a rendu les gens le plus jaloux parce que waouh, t'es passé à la télé, mais. Ouais,
Ouais,
mais
alors.
et on a beau dire, mais attends, si tu veux, fais le tournage à ma place. Pour une des émissions, c'est vrai, on a tourné 7h30 et je suis restée à l'antenne 1 minute 30. Hein. Je peux t'assurer que les 7h30 de tournage, pour moi, ça a été un enfer. Hein. Plus toute la préparation et tout ça. Donc après, quand les gens y retiennent, ouais, t'es passé à la télé et qu'on sent la pointe de jalousie, on se dit waouh. Bon.
Bon. Ah, comme quoi la télé est encore hyper importante, hein. Ça,
Incroyable.
on n'arrête pas de dire les réseaux sociaux, machin, les jeunes ne s'informent que sur les réseaux sociaux, etc. Mais n'empêche que ah, t'es passé à la télé, c'est vachement
Voilà.
bien. Même si tu passes dans une émission pourrie, que je ne pourrais pas en citer une parce que je la regarde pas, je n'ai même pas la télé.
Ah,
Mais
mais moi non plus, c'est ce que j'allais te
alors si, j'en ai une, mais
Ouais.
elle n'est pas branchée au réseau. Elle est branchée sur la PlayStation et avec laquelle j'accède à Netflix, Prime, Disney, etc. Mais par contre, regarder France Télé ou W9, je ne sais pas ce qui s'y passe.
Non, moi, je l'ai pas. Je l'ai revendu il y a 3 ans, donc, parce que je la
Oui.
regardais pas, en fait. Donc, je me suis dit, c'est quand même un peu con de payer en plus la redevance. Et donc, ben, voilà. Donc, c'est assez rigolo aussi de voir les gens qui sont admiratifs que j'ai fait une télé, alors que moi, bon, j'en ai pas rien à faire, mais enfin, je préfère nettement les interviews pour santé.
Est-ce que ton livre a été une sorte de thérapie?
Je ne sais pas si ça a été une thérapie, mais ça, en tout cas, ça m'aide par rapport aux autres, en fait. Parce que pour le coup, ils savent maintenant. Je vois l'aviron, c'est rigolo, parce que quand je fais justement le quart d'heure ou la demi-heure de plus dont je parlais tout à l'heure, ça les fait rigoler maintenant, quoi. Parce que bon, bah voilà. Enfin, mais il n'y a aucun jugement. Donc ça m'a peut-être libérée par rapport à ça. Ça m'oblige à me dépasser énormément parce que je fais beaucoup de promos. J'ai horreur de ça. Je devrais pas te le dire, mais bon, t'as compris. C'est
Oui,
super dur pour moi.
j'avais compris.
C'est super dur pour moi. Donc, les nuits blanches que j'ai passées parce que j'avais des interviews et des interviews, ben voilà. Bon, ben après, il faut quand même que je me dise, c'est quand même vachement bien ce que j'ai fait pour ça, quoi, parce que j'ai un message à faire passer, donc je vais aller au bout. Je me dis, j'ai pas le droit de lâcher. Ça va faire 1 an que je fais de la promo. On m'avait dit, non, tu verras, ça va durer 2 mois, puis ce sera fini. C'est pas le cas. Mais si je veux absolument que le message il passe, j'ai encore une copine qui m'a dit l'autre fois, j'aimerais bien être comme toi. Je lui ai dit, mais non, surtout pas, parce que moi, je suis trop dans l'excès. J'ai le sport, il faut en faire, mais il faut être raisonnable. Donc, à la fois dans le temps qu'on fait, le temps de sport qu'on fait et la manière dont on le pratique. Donc si voilà, si mon livre enfin si j'ai écrit le livre, c'était pour ça, et c'est pour ça que je continue à faire de la promo et qu'il me coûte.
Donc il y a quand même bien des petits moments de satisfaction, de fierté chez toi, parce que de ce que tu me dis, j'ai l'impression que le côté transmission t'apporte énormément de satisfaction.
J'avoue, quand j'ai reçu un message d'une fille qui m'a dit ton livre m'a sauvée parce que j'étais en plein dans la, je partais dans l'anorexie, j'étais en plein dans la bigorexie, et en lisant ton livre, j'ai consulté un thérapeute et j'en suis sortie. Ouais, là j'ai été vachement contente. Parce que. Et quand je reçois des messages de gens qui me disent ben je me sens moins seule ou j'ai mis un mot sur quelque chose, là je me dis ouais, ça vaut le coup de. Ça vaut le coup de galérer un peu pour faire les interviews et tout ça.
Est-ce que de faire en visio hier, d'accepter aujourd'hui, c'est une manière de dire, allez, je transmets quelque chose, je fais un petit pas devant l'autre vers un état de mieux-être?
Non.
Ou est-ce que c'est vraiment pour faire plaisir?
C'est pour faire plaisir. Parce que je me dis, non, il faut que j'aille au bout du truc. Il a raison. J'ai encore un copain hier qui m'a dit, tu sais, quand c'est en visio, c'est quand même mieux. C'est plus sympa pour ceux qui regardent et tout. Ok. Bon.
Si je te proposais de mettre la plante qui est derrière toi à ta place, est-ce que tu le ferais?
Ah, je peux, ouais. Sauf que là, je risque de me casser la figure parce que je suis sur un pouf qui est très instable. Donc, j'ai tout calé avant la vidéo.
Ah, mais c'est infernal parce que j'avais une question hyper intéressante, c'est le genre de question super pertinente qui t'arrive une fois par an, je l'ai perdue. Donc,
Non, mais tu l'as
c'est
pas
si.
noté au-dessus du prompteur ou je sais pas, non?
Mais j'ai pas de ça, moi, madame. Attends, pas quoi. Regarde-moi tout ce que j'ai ici. C'est un cheval en bois.
Oui.
Moi, j'ai rien de tout ça ici. Hein, donc, non, non, là. Tiens, je pourrais juste sortir une petite baguette magique.
Ah
Non,
ouais.
non, moi, j'ai pas de prompteur, là. C'est la salle de jeu. Donc.
En fait, je t'ai perturbée parce que tu as préparé ton interview que tu prépares jamais et du coup, ça t'a tout.
Bah ouais. Et puis je t'avoue que c'était quand même plus difficile que d'habitude parce que je pouvais préparer. En fait, je caricature un tout petit peu. Je prépare un minimum quand même d'habitude, mais
Ouais.
vraiment un minimum parce que le sujet, finalement, je le connais. Je connais la personne un petit peu avec qui je vais parler. Je connais le domaine dans lequel on va parler. Donc je pars jamais totalement dans l'inconnu. Or là, parler avec toi. Je me suis en fait pas mal documenté, j'ai lu beaucoup d'interviews que tu as données. Tu as abordé pas mal de sujets qui me sont étrangers.
Ouais.
Donc pour moi, c'était très difficile aussi, tu vois, quand tu parles bah, justement de ces comportements excessifs, quand tu reparles de ton rapport à la féminité, tout ça, pour moi, pour moi, c'est la lune. Parce que je suis pas comme ça. Donc, et j'ai jamais eu de proches dans ce cas-là, ou en tout cas, je ne m'en suis pas rendu compte. Et puis, il y a aussi un côté où j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise, j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise. Donc, ça a été difficile pour moi. C'est pour ça que j'y suis allé un petit peu à tâtons, parce que c'est quand même, pour moi aussi, c'est un petit effort, tu vois, de me mettre dans une situation comme ça où je parle d'un sujet que je maîtrise visiblement pas du tout,
Ouais, tu t'en sors très bien.
mais qui me paraît important parce qu'on n'est pas à l'abri. Et
Ouais.
là, la question vient de me revenir un petit peu, tu vois. Je viens d'avoir un éclair de lucidité mortel. Mortel, c'est pareil, ça m'arrive deux fois par an. Est-ce que les troubles, ce type de troubles dont tu souffres ou dont tu as souffert, sont liés aussi à des troubles alimentaires?
Oui.
Est-ce qu'il y a une sorte de modèle répétitif, donc un pattern en anglais, un modèle répétitif qu'on peut commencer à distinguer un petit peu, que ce soit bah, le rapport à la féminité ou le rapport à la masculinité, et également les troubles du comportement alimentaire ou troubles sociaux? Est-ce qu'il y a une trame, une matrice, ou est-ce que vraiment ton cas est unique et la fille qui t'a écrit est dans un cas tout à fait différent, ou est-ce qu'on retrouve quand même un terreau commun?
Ah non, non, le terreau commun, c'est. Alors pour moi, je pense que tout le monde a quelques problèmes psychologiques, notamment l'image de soi. Il y a quand même beaucoup de bigorexie en salle de muscu aussi, parce qu'il y a le culte du corps. La bigorexie, avec tous les témoignages que j'ai eus, bigorexie, anorexie, c'est pas loin. Moi, la première, hein, j'ai été. Je sais pas si j'y étais complètement, mais enfin, il y a un moment où j'ai vraiment, quand j'étais ado, j'étais limite anorexique, sinon anorexique. Actuellement, je fais super gaffe à ce que je mange, mais parce que je veux manger sainement, mais j'ai pas envie de prendre 15 kilos non plus, quoi. Donc le culte du corps, il y a, je dirais que c'est forcément pratiquement tout le temps avec la bigorexie. De toute façon, on peut pas faire non plus du sport à haute dose et avoir 20 kilos de trop, hein. C'est difficilement compatible. Les trailers, c'est pareil, ils sont toujours hyper fins. Donc il y a ce terreau-là. Après, il y a oui, ce que je disais, les troubles psychologiques, parce qu'il y a une histoire de manque enfin, une image de soi qui convient pas, et quand on fait du sport, on se valorise, hein.
Et même à 48 ans, avec tout le recul que tu as, avec tout ce que tu as vécu, t'arrives pas à avoir une image plus positive et à
Non.
te dire non, putain, quand même, j'ai réalisé quand même quelque chose. Là, notamment avec le livre, parce qu'au bout du
Non.
compte, tu as passé une étape énorme et tu as fait quelque chose que beaucoup de gens n'arriveraient pas à faire. Et ça peut être une véritable fierté.
Non. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ça va faire un an que je suis en promo. Je stresse à chaque fois que j'ai une interview, hein, je stresse autant qu'à la toute première. Enfin, c'est dément, quoi. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ah, ouais, mais je vais pas répondre comme il faut, je vais pas dire ce qu'il attend, je vais pas être capable de répondre, alors que j'en ai quand même fait, hein. Mais
Justement, ça fait un an, tu en as fait un paquet. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, où tu raisonnes finalement, un peu comme Monsieur Spock dans Star Trek, de manière très rationnelle? Oui, tu notes, hein, je prends mes sources aussi vraiment de manière extrêmement. L'approche est extrêmement scientifique. Mais non, mais arrête, par contre, tu déconnes, mais c'est un truc que j'adore dans Star Trek, c'est que Monsieur Spock, il réfléchit de manière ultra rationnelle.
Ah ouais.
Et tu vois, par exemple, dans les derniers longs métrages, le capitaine Kirk est plutôt impulsif, il est motivé par la vengeance du décès de son père, etc. Alors que alors que Spock, au contraire, il est extrêmement rationnel. Il essaye d'éliminer le plus rationnellement possible la tristesse du décès de sa mère. Et je trouve ça assez génial. Mais est-ce que toi, justement, de manière très rationnelle, t'arrives pas à te dire, bon, Servan, ma grande, t'as donné 74 interviews, tu t'en es toujours bien sorti, donc demain, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Tu sais le faire, donc tu vas y arriver.
Non, ça, c'est impossible. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Genre, au niveau du boulot, à chaque fois que je rends une traduction, un truc comme ça, je me dis, ah, si ça se trouve, tu t'es planté. Si ça se trouve, ce sera pas bon. Si ça se trouve, il va être déçu. Si ça se trouve, c'est. Même quand je maîtrise le sujet, quoi.
Alors que tu as quand même un paquet de livres au compteur.
Ouais. Ah
Et
ouais,
t'as
mais.
jamais essayé. T'as jamais essayé. Ou vraiment tu n'y arrives pas.
Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas.
Bon. Et si tu regardais Star Trek un petit peu, est-ce que ça t'aiderait?
Sais pas, alors ça, j'ai jamais regardé. J'aime pas la science-fiction.
Surtout que ton pull ressemble énormément aux vêtements quand même de l'USS Enterprise.
C'est vrai.
Donc, il te manque que les oreilles pointues et là tu y es, hein,
Bon, ça, on
franchement.
peut faire vite, on peut.
Ouais, on peut se débrouiller. En plus, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Amazon que tu peux t'acheter des oreilles de Monsieur Spock. Donc,
Ah
nickel, tu vois, je pense que la fin est proche, hein, Servan. T'as quoi comme
D'accord.
vélo?
Alors, j'ai trois VTT. J'ai un semi-rigide et deux tout suspendus. Et le dernier tout suspendu est un carbone. Je me suis fait super plaisir. Je devais attendre mes 50 ans et je me suis dit que finalement la vie était bien trop courte. Donc voilà, donc je me suis acheté un beau bébé en carbone. Pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire que ça fait quand même 3-4 kilos de moins qu'un vélo classique en alu. Et avec, comment c'est un, j'étais en 27,5 en roue, et là je suis passée en 29, et c'est, ça passe partout. Donc c'est génial. C'est juste que là, j'ai usé la cassette et puisque t'en parles, hier, je suis allée pour la faire réparer. Et la petits pignons seront disponibles dans 67 semaines.
Eh oui.
C'est cool.
Ouais, ouais, c'est devenu une blague en ce moment. Hein. Surtout ne casse pas ta chaîne, surtout ouais. Ne casse pas ton dérailleur. Et entre le prix de certaines pièces, je pense à un de mes gars qui voulait changer la cassette de son SRAM AXS et ça coûte les yeux de la tête. Et est-ce que le comportement bigorexique à l'entraînement se pourrait se traduire également par une accumulation de matériel?
Ou non, est-ce par que contre,
ceux qui ont la collectionnite, c'est un petit peu lié ou est-ce que c'est autre chose?
Non,
est-ce
non.
Qu'il faut chercher leur traumatisme ailleurs que dans les Vosges?
Non, moi j'ai 3 vélos parce que quand il y en a un qui est. Alors déjà, parce que je roule tous les jours, quel que soit le temps. Donc par exemple, mon vélo carbone ne va jamais aller dans la gadoue parce que ça va l'user, ça va tout ça me salir, donc c'est pas voilà.
C'est mon bébé.
Voilà, c'est mon bébé. Donc... D'ailleurs, la première fois que je suis allée l'emmener pour la révision, le gars m'a dit si tous les VTT étaient comme ça, ce serait quand même super cool. Ah ouais, parce que moi je le nettoie toutes les semaines, je me suis acheté un mini Karcher et tout, enfin la totale. Hein. Vraiment, j'ai tout. J'ai un vélo que je prends ce qu'on appelle le mulet. Voilà, donc quand il fait mauvais, comme ça, lui, il craint rien. C'est pour avoir toujours un vélo, en fait, que j'en ai 3. C'est pas une histoire de collectionniste, c'est aussi une histoire de, suivant ce que je fais comme terrain, je prends pas le même. Par contre, la bigorexie, ça coûte cher, hein, parce que le nombre de chaînes, de cassettes et tout ça que j'use, en plus, moi, je répare pas. À part changer un pneu, une chambre à air, le reste, je fais pas. Mon Scott, la dernière fois que j'ai changé la chaîne, 75 euros. You, rien que la chaîne.
Donc en tout suspendu, tu as le Scott Spark.
Ouais, le tout blanc.
Ouais.
Et j'ai un Orbea Oxam qui a 3 ans, 4 ans en alu. Mais le Spark, ouais, c'est.
Ah ouais, non, mais t'inquiète, je l'ai eu. Et ah, le ouais. Jour où il est reparti, j'ai pleuré.
Moi, le pire, c'est que c'est le vendeur qui l'avait acheté pour lui parce que c'était sa taille. Il était en vacances et il me dit, si vous voulez aller voir le modèle que j'ai. Et quand je suis rentrée dans le magasin, je dis, oh, non, c'est bon, quoi. Bon, je prends. Et après, il me dit, ouais, je l'avais pris pour moi. Ah ouais, dommage.
Bah, dommage.
Ouais.
Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, Servan?
Non, Peut-être, ceux qui sont sport addicts et qui le savent, qu'ils ouvrent bien les yeux et puis qu'ils écoutent la petite voix qui leur dit qu'ils font une connerie. Mais c'est surtout par rapport à l'entourage des sport addicts, arrêter de dire que le sport c'est super quand quelqu'un est blessé, qu'il va courir ou autre, arrêter de dire que c'est courageux parce que c'est de la connerie. Si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'il faut vraiment alerter. Que les gens soient alertés quand il y a un comportement comme ça, c'est pas le sport, c'est pas que bon pour la santé. Ça dépend comment on le fait. Voilà.
Putain, et tu sais quoi, Servan, ouais. Je suis vraiment le roi des blaireaux. Parce qu'en fait, la question géniale que j'avais tout à l'heure, c'était pas la question géniale à laquelle je pensais. C'en était une, mais de moindre qualité. Et en réalité, la réflexion ultra fine que j'avais eue, c'est la suivante. Au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que la bigorexie est reconnue comme maladie par l'OMS depuis 2011. Ouais. Mais tu as eu également beaucoup de mal à trouver un thérapeute qui connaissait ou qui était capable de traiter cette maladie. Est-ce qu'il y a encore un déficit d'information en France ou ailleurs sur les risques du sport à outrance, ou est-ce qu'au contraire il y a une sorte, pas d'omerta, mais en tout cas de déni sur ce méfait-là?
Je ne sais pas si c'est du déni, c'est de la méconnaissance. Moi, le thérapeute que j'ai vu, c'était pas pour la bigorexie, c'était parce que j'étais perclue d'angoisse après mon accident. Et il y a un moment, c'était tellement, ça prenait tellement le pas sur tout que je me suis dit là, je vais même plus pouvoir faire d'aviron. Et en plus, je pourrissais la sortie des autres parce que j'avais tellement peur que le bateau se prenne la berge ou tout ça que je devenais infernale, quoi. Donc, mais même l'hypnothérapeute que j'ai vu. ils connaissaient pas la bigorexie. Le plus rigolo, l'exemple le plus rigolo, c'est que après mon accident du fémur, 2 ans après, j'ai passé la visite médicale de l'assurance. Donc, expert médical, médecin du sport, quand je lui ai dit je suis bigorexique, il m'a dit qu'il ne connaissait pas le mot. Donc, là-dessus, il y a une vraie méconnaissance. Et quand tous les thérapeutes que j'ai interrogés, ou sophrologues, ou tout ça, quand je leur parle de ça, il y a aucun patient qui soit venu les voir pour soigner ça. Parce que y a-t-il un patient qui est prêt à se faire soigner? C'est ça aussi.
Est-ce que toi, est-ce que tu es guéri? Est-ce que tu as réussi à te soigner, ou est-ce que, je t'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais je vais te la poser sous une autre forme. Est-ce que tu es soigné, ou est-ce que tu vis avec?
Non, je vis avec.
Avec une certaine conscience de ce que tu fais. Ouais, tu vis avec.
Je vis avec. C'est pour ça que je dis souvent, je suis une bigorexique raisonnable. C'est-à-dire, je sais que j'en fais trop, mais j'ai arrêté tous les comportements dangereux, à mon avis. Donc voilà, je vis avec. Et parce que aussi, ça m'apporte beaucoup. Et comme m'avait dit une copine, de toute façon, on est tous addicts à quelque chose. Donc, quand j'ai un fumeur qui me dit, de toute façon, au moins, tu vas pas mourir d'un cancer du vélo, je dis, oui, t'as raison, c'est vrai. Voilà.
Et ta copine, elle était addicte à quoi, elle?
Je sais pas, mais c'est vrai que si on réfléchit, on est tous addicts à quelque chose, quoi. Pas toi. Bon, d'accord.
je t'ai pas dit pas moi. J'ai simplement pas répondu. J'étais en train de me poser la question.
T'avais l'air tellement dubitatif que.
Ah non, c'est mon visage normal.
D'accord.
Non.
Là, ça peut être le chocolat, ça peut être.
Ah oui.
Ah bah voilà.
Ah oui, oh putain. Ah oui. Chocolat. Ah oui, chocolat sans hésiter. Hein. T'en manges, toi?
Ouais.
Ouais.
Mais alors, je vais te faire hurler parce que, comme tout le monde, je ne mange que du 100%. Donc, tout le monde me dit c'est dégueulasse. Non, moi, j'adore ça.
Non. C'est une forme de pureté, parce que finalement, le chocolat traité et tout, c'est un petit peu dégueulasse quand même, des fois.
Ouais.
Et il y a une sorte d'amertume dans le chocolat très, très fort qui est une forme de. C'est aussi une forme de pratique pour les connaisseurs. C'est comme. Ouais, c'est comme plein d'autres trucs, comme écouter certaines formes de musique plus ou moins savantes ou compliquées. Bah, certains vont écouter un truc un peu banal, un peu populaire, et puis d'autres vont écouter des trucs beaucoup plus pointus. Bah, moi, j'aime pas le vin, j'aime pas la bière. Tiens, je peux aussi faire hurler les gens, j'aime pas la bière. J'aime pas le vin. Donc, moi aussi, je peux faire hurler les gens. Il n'y a pas que toi, hein. Je suis content, je t'ai fait rire.
La gorge
déployée, non mais la rigolade. Putain, tu te surprends ou non, tu peux pas me dire que tu fais semblant. Là. Il y a quand même une part de naturel.
Ouais, j'essaye de. Non, je fais des efforts, mais.
Tu rigoles bien quand même, de bon cœur là.
Oui, je rigole de bon cœur, oui. Non, c'est. C'est sourire quand je parle de sujets sérieux, j'ai un peu du mal en fait, mais.
Ah ouais, mais même les sujets sérieux, faut pas en parler sérieusement, sinon
oui.
On finit plus.
Ouais.
Sinon, c'est trop chiant.
Ouais.
Bon, ma petite Servane, je vais te laisser à ta minute de solitude.
Les boules.
Les boules, les glandes. Hein.
C'est là que je mets la plante devant l'écran. Hein.
Mais alors, je te l'ai dit tout à l'heure, tu fais comme tu veux.
Ouais.
C'est une minute d'expression. Donc, si ton expression, c'est de te barrer et de laisser, eh ben écoute... Il n'y a aucun problème. Tu fais comme tu veux. Moi, je ne jugerai pas là-dessus. C'est un espace qui vous appartient. Donc, tu te souviens, tu laisses l'onglet ouvert, tu laisses tout. Et,
ouais.
Et voilà. En attendant, Servane, merci beaucoup. Et à très bientôt.
D'accord.
À vélo.
Ouais, à bientôt.
On fera la course. Tu verras, ça va être vachement bien.
D'accord. En Bretagne.
Non.
Non, d'accord.
Non. En plus, on m'a invité il y a 2 jours à un truc en Bretagne. Et j'ai... Tiens, je vais en profiter pour faire un petit peu de promo pour mon pote Fred qui organise la Gravel Trop Bresse série Brocéliande. Donc, un truc bikepacking itinérant sur 2 jours autour de Brocéliande. D'ailleurs, ça pourrait vraiment te plaire. ça pourrait, c'est quelque chose qui pourrait t'éclater, parce que c'est pas une course, c'est de la balade, c'est de la nature, c'est vraiment de la promenade et du plaisir à vélo. Donc j'en profite pour faire un petit peu de promo pour mon Fred qui est en Bretagne.
Eh ben voilà. Bah comme ça la minute est comblée, non ?
Ah non, c'est moi qui a parlé, c'est pas toi.
Donc, je te laisse.
Allez, gros bisous.
Ouais, au revoir. Alors forcément, comme je n'aime pas parler de moi, mais alors j'ai un autre défaut que la bigorexie, c'est que je suis livrorexique. Et je pourrais vous conseiller un excellent livre là que j'ai lu dernièrement qui s'appelle j'ai oublié le titre. Ce qu'il faut de nuit, c'est une très très belle histoire, très humaine. Dans le même genre, il y a Feuillet d'usine. Je vous conseille de lire aussi, ça vide bien la tête. Et sur ces bonnes paroles, je crois que je vais vous laisser parce que j'ai déjà donné énormément là de moi. Et puis en plus, maintenant que Richard est parti, il n'y a plus que moi que je vois à l'écran, donc ça fait beaucoup trop. Donc je vous souhaite à tous ceux qui regarderont cette vidéo une excellente journée ou une bonne soirée, enfin tout ce que vous voulez. Faites du sport, c'est bon pour la santé, mais pas trop. Oubliez la télé, puis prenez un bon bouquin aussi, et ce sera génial. Allez, salut tout le monde. Et voilà mes plantes vertes.